Alors, ce matin, j'aimerais vous suggérer qu'on regarde ensemble le sujet de la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. La liberté de Dieu, la liberté de l'homme. On sait que s'il existe un sujet qui est difficile à résoudre en théologie, c'est celui-là, celui de la souveraineté de Dieu puis le libre arbitre que de l'homme. Ou encore la liberté humaine. On peut se poser les questions suivantes, à savoir, est-ce que Dieu serait maître de tout, sauf de la volonté de l'homme? Ça, c'est des questions. Ceux qui veulent réfléchir un petit peu, ils sont appelés à me poser ça. On lit dans la Bible que Dieu est maître de tout. Est-ce qu'il est aussi maître de la volonté de l'homme? Et s'il n'y a personne qui peut venir à Dieu, si ce n'est lui-même Dieu qui attire les hommes à lui, comme on lit dans Jean 6, 44. Alors, à quoi ça sert de faire de l'évangélisation ou de parler du Seigneur aux autres s'ils n'ont pas été à la base prédestinés? Là, je vous bombarde de mes questions, là, justement pour que le petit Suisse là, puisse pédaler un petit peu. Parce que lorsqu'on parle de ces sujets-là, comme je vous disais tantôt, c'est un des sujets les plus difficiles à résoudre en théologie, ça. La liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Comment on peut concilier ça ensemble et est-ce que ça se concilie ça ensemble? On va voir ça. Alors, en d'autres mots, on pourrait dire, si c'est Dieu qui décide, où est la responsabilité de l'homme? Fait que là, je vous ai posé assez de questions, je m'en vais chez nous, puis là, c'est que vous pensez à ça cette semaine. Alors, comme je vous disais, il est difficile de comprendre la relation entre les deux. Mais malgré ça, il y en a quand même qui aiment ça se casser la tête. Il y en a qui aiment ça ruminer ce genre de questions doctrinales-là difficiles. Je me souviens, c'est qu'une année, j'avais été dans une conférence où le sujet était la prédestination. Puis, pendant le dîner, la table à côté de moi, il y avait deux hommes qui discutaient ensemble. Puis, les deux essayaient de faire valoir leur façon de comprendre les choses. Il y en a un qui disait que tout était dans les mains de Dieu, que c'est Dieu qui attire. L'autre, il disait, oui, mais l'homme, c'est quand même lui qui accepte. Puis là, les deux jasaient. On voyait qu'il y avait une difficulté de se mettre en accord avec ces principes-là. Puis moi, quand je regardais ces deux gars-là parler, le verset d'Ésaïe 55, verset 8, il m'est revenu en tête tout de suite. Et Ésaïe 55, 8, c'est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevés au-dessus de vos voix. Alors, on comprend bien que si on se place face à Dieu, il ne procède pas souvent de la même façon que nous, il ne pense pas de la même façon que nous. Alors, lorsqu'on met tout ça ensemble, là, il faut essayer d'arriver à une conciliation là, qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de la confession de foi de Westminster. Ça ne fait pas trop longtemps de ça. La confession de foi de Westminster dit ceci. De toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement, ou encore constamment, ordonné tout ce qui arrive. Dieu ordonne constamment tout ce qui arrive. Alors, notre réflexion devrait porter sur le fait que, malgré le fait que l'homme est véritablement libre, parce que c'est un fait, l'homme est véritablement libre dans le sens où il a la capacité de faire ses propres choix, de choisir ce qu'il veut. Dieu est lui aussi véritablement libre. Donc, Dieu ordonne tout, mais sans faire violence à la volonté des hommes. Encore là, c'est assez compliqué à saisir. Dieu ordonne tout, mais sans faire violence aux décisions que les hommes prennent. Encore là, il faut mixer ça dans le même plat. Là où ça devient compliqué pour notre petite intelligence qui est limitée, il faut bien qu'elle l'admette, c'est de s'imaginer que dans aucun cas, la souveraineté de Dieu est limitée par notre liberté. Parce que si c'est le cas, ben alors Dieu n'est pas souverain. Si sa liberté à lui est limitée par la mienne, ça voudrait dire que c'est moi qui est le souverain et pas lui. Me suivez-vous, là? OK. Est-ce que ça fait du sens, ça? Ça fait du sens que ma liberté brime la liberté que de Dieu? Ça ne fait pas de sens. Parce que la créature n'est jamais plus élevée que le Créateur. Si on pense le contraire, on est des orgueilleux de la pire espèce. On a été créé par quelqu'un et le Créateur a tous les droits sur nous. Alors, notre liberté ne limite en aucun cas la souveraineté de Dieu. Je suis libre, imaginons-nous pas que Dieu, c'est qu'il ne l'est pas. Dieu est même plus libre que nous. John MacArthur a émis le commentaire suivant concernant Jean 6, 44, qui dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, John MacArthur, il dit « L'homme est l'esclave du péché et donc incapable de croire, si ce n'est par suite d'une intervention de Dieu pour l'en rendre capable. Alors que quiconque le veut peut venir au Père, parce que c'est ça que la Bible dit, hein? Quiconque le veut peut venir au Père. Mais seuls ceux auxquels le Père a donné la capacité de vouloir se tourner vers lui viendront effectivement à lui. L'attirance pour Dieu est ici sélective et efficace, puisqu'elle produit l'effet attendu chez ceux que Dieu a choisis pour le salut. Ceux que Dieu a choisis croiront pour la bonne raison que Dieu a prévu cela de toute éternité. C'est ça qu'on lit dans Éphésiens, chapitre 1. Je vous invite à tourner là. Éphésiens, chapitre 1, le verset 9. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a déjà prévu le salut à des gens. Éphésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Avant la fondation du monde, chacun de ceux qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ était déjà prédestiné. Là, je vous l'ai dit tantôt, on touche à un sujet qui est quand même assez compliqué, mais qui n'est pas si compliqué que ça, vous allez voir, en cours de route. Dans le dictionnaire, il y a un mot qui s'appelle « concomitance » ou encore « concomitant ». Puis ça, ça veut dire que ça se dit d'un fait qui se produit en même temps qu'un autre. Autrement dit, « concomitant », ça veut dire « simultanément », « en même temps ». Puis, pour un de mes auteurs favoris, R.C. Sproul, ça c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, lui, son illustration préférée de la concomitance, c'est l'histoire de Joseph. Vous connaissez Joseph, le fils de Jacob? Son histoire est quand même longue, mais je vais vous la résumer pour que ça aille plus vite. Alors, on sait que Joseph était curieusement le préféré de son père. Probablement parce que Jacob avait aimé Rachel, la mère de Joseph, plus que les trois autres femmes qu'il avait eues, puis avec qui il avait eu 10 autres fils. Benjamin, son 12e, venait aussi de la femme que Jacob avait préférée que Rachel. Benjamin. Alors, Jacob, il a donné un manteau multicolore à Joseph. Vous vous rappelez de tout ça, là?
Oui.
Alors, Jacob, il reçoit un manteau multicolore, puis ses frères, ils l'ont haï à cause, justement, de ce traitement de faveur-là. Alors, un jour, pendant le temps que les frères font paître le troupeau de leur père, Joseph, c'est-à-dire, est envoyé par Jacob pour vérifier si tout va bien. Alors, quand les frères voient Joseph qui arrive, ils conviennent de le tuer, parce qu'ils haïssent leur frère à cause du traitement de faveur que leur père s'y faisait. Alors là, au lieu de le tuer, ils changent d'avis, puis ils décident de le vendre, c'est-à-dire des marchands qui s'en allaient en Égypte. Là, on est dans Genèse 37. En Égypte, Joseph est vendu à Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Puis comme Joseph faisait bien son travail, puis qu'on lit de lui que l'Éternel était avec lui, là, il est passé au service de son maître Potiphar. C'est à ce moment-là que la femme de Potiphar a lui fait des avances, que Joseph a refuse. Là, elle l'accuse de viol. Joseph se retrouve en prison. En prison, Joseph rencontre l'échanson puis le panetier de Pharaon. L'échanson puis le panetier, c'est ceux qui donnaient le vin puis le pain à mes pharaons. Mais comme les deux avaient contrarié le roi, les deux sont ramassés en prison. Puis Joseph est là, lui. Alors, pendant leur séjour en prison, Joseph, il va interpréter les rêves que les deux ont eus, puis les deux rêves se sont réalisés. Alors là, l'échanson, 2 ans après, il est retourné à la cour. Mais 2 ans après, il parle à Pharaon qui a rencontré en prison quelqu'un qui pouvait interpréter les rêves. Alors Pharaon, il fait appeler pour l'interprétation de son rêve que lui venait d'avoir. Alors Joseph lui donne l'explication, puis Pharaon est si reconnaissant qu'il va le nommer gouverneur de l'Égypte, puis il va le charger de préparer le pays de la famine. Parce que c'est à ça que Pharaon avait rêvé, qu'il allait avoir une famine en Égypte. Alors, quand la famine arrive, Jacob envoie ses fils en Égypte pour acheter une partie du surplus de nourriture que Joseph avait eu la sagesse de stocker pour les Égyptiens. Vous me suivez toujours? Ça, c'est l'histoire d'un Joseph. Alors, lorsque les frères de Joseph s'en vont en Égypte pour aller chercher de la nourriture, les frères ne reconnaissent pas Joseph, mais lui les a reconnus. Puis, après s'être révélé à eux, il va inviter son père et toute sa famille en Égypte. Puis des années plus tard, après la mort de Jacob, les frères de Joseph ont peur. Ils ont peur de quoi? Qui se venge. Ils ont peur que Joseph se venge d'eux pour l'avoir fait, suis-moi le terme, baver pendant des années. Mais Joseph les a pardonnés depuis longtemps, puis pour les rassurer, il les a dit ce qu'on lit dans Genèse 50. Tournez-là. Genèse chapitre 50, verset 19. Alors, pour rassurer ses frères, Joseph, il leur dit, verset 19, Genèse 50, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Alors, on voit bien quand même que Joseph n'a jamais blanchi le péché de ses frères. Il lui dit clairement, vous aviez médité de me faire du mal. Il avait agi avec une mauvaise intention, il était donc coupable d'avoir péché. Mais, c'est ça qui est important de souligner ici, Dieu est au-dessus de tous les choix humains. Puis, il agit à travers la liberté humaine pour atteindre ses objectifs. Genèse 50, verset 20, comme on l'a lu, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est ça que Joseph il veut dire. Vous aviez choisi de commettre un péché, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Dieu a changé le mal en bien. Puis, mais en quelle sorte que de bien, finalement, qu'on peut se poser? Mais que d'abord, Dieu il a envoyé Joseph, qui avait été abandonné par ses frères en Égypte, pour préparer le pays en vue de la famine et sauver la vie de plusieurs familles en Égypte, y compris la sienne, la famille de Jacob. Puis Dieu fait en sorte que toute la famille de Jacob déménage en Égypte, qu'elle y passe, qu'elle y prospère, c'est-à-dire qu'elle se multiplie avant d'être dominée. Parce que lorsque le pharaon qui avait connu Joseph est mort, là, il s'est passé quelque chose avec le nouveau pharaon. Il s'est dit, Israël, c'est un peuple qui peut être dangereux, là. S'il commence à nous monter sa tête, on est fait. Fait qu'il a fait en sorte que, sous le régime de ce pharaon-là, les Égyptiens sont devenus esclaves, puis ont travaillé comme des forcenés pour vivre, juste vivre. Alors, on sait que Dieu, suite à ça, a délivré Israël de l'esclavage en Égypte par sa puissante main. Et comment Dieu a-t-il réalisé tout ça, toute l'histoire que je viens de vous raconter? Dieu a réalisé ça à travers sa volonté juste et, retenez bien ça, et la volonté pécheresse des frères de Joseph. Alors Dieu se sent des conneries que les êtres humains sont capables de faire pour aller en chercher du bien. Comment est-ce qu'il fait ça? C'est lui qui va décider. En concomitance ou simultanément. C'est comme ça que Dieu procède. Dieu a toujours pour objectif le bien. Vous aviez médité de me faire du mal? Dieu l'a changé en bien. Et sa volonté s'accomplira toujours parce qu'il est souverain. Puis si je vous relis la confession de foi de Westminster, de toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. Alors, ça nous donne une confirmation de la souveraineté, de la toute-puissance de Dieu. Malgré les choses tout croches que les hommes sont capables de faire, Dieu est capable d'en retirer du bien. Ça vous encourage-tu, ça? Là, je ne suis pas en train de vous dire, mais faites-en des gaffes. Faites-en des mes bêtises. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ça arrive que les êtres humains, de par leur nature, sont capables d'en faire, mais on ne vient pas de mettre Dieu en boîte en ce temps-là. Dieu qui est souverain va être capable de tirer du bien des choses croches qu'on est capable de faire. Oui, ça me stimule, ça. Ça me stimule à adorer Dieu. Ça ne me stimule pas à faire du mal, mais ça me stimule à adorer Dieu qui n'est jamais mal pris malgré mes bêtises. R.C. Sproul raconte une vieille histoire qui va comme ceci. Faute de clous, on a perdu le fer. Faute de fer, on a perdu le cheval. Faute de cheval, on a perdu le cavalier. Faute de cavalier, on a perdu le message. Faute de message, on a perdu la bataille. Faute de bataille, on a perdu le royaume. Sproul suit la même que logique, si Jacob ne donne pas le manteau multicolore à Joseph? Vous me suivez tout le temps, là? OK. Alors, pas de manteau, pas de jalousie. C'est vrai, hein? OK. Pas de jalousie, Joseph, il ne se fait pas vendre à des marchands d'esclaves et il ne descend pas en Égypte. Pas de descente en Égypte, pas de rencontre avec Potiphar. Pas de rencontre avec Potiphar, pas de trouble avec sa femme. Pas de problème avec la femme de Potiphar, pas d'emprisonnement. Pas d'emprisonnement, pas d'interprétation des rêves de Pharaon et pas d'élévation non plus au rôle de gouverneur pour Joseph. Pas d'élévation au rôle de gouverneur, pas de réconciliation avec ses frères. C'est vrai, hein? Pas de réconciliation, pas de migration du peuple juif en Égypte. Pas de migration, pas d'exode hors d'Égypte. Pas d'exode, pas de Moïse. Pas de loi, pas de prophète, et pire encore, pas de Christ. Mettez tout ça ensemble. Maintenant, dans le plan de Dieu, pensez-vous que c'était un accident que ce manteau-là a été offert à Joseph? C'était peut-être pas une bonne idée, par exemple. Parce qu'il a rendu tout le restant de sa famille jaloux. Mais malgré cette mauvaise idée-là, ça n'a pas été un accident. Est-ce qu'on saisit là un petit peu à quel point Dieu est souverain, il est tout-puissant? Parce que c'est une bêtise que Jacob avait faite de donner un manteau multicolore à son fils. Les autres, ils voulaient le tirer, là. Mais malgré cette bêtise-là, Dieu a fait en sorte que tout ce qui est arrivé, Dieu a voulu ça pour notre bien à tous. En bout de ligne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ressorti toute cette histoire-là. Jonathan Edwards, un jour, il a prêché un message dont le titre était « Dieu, l'auteur de toutes les bonnes volontés et actions ». Règle générale, la nature humaine aime ça s'approprier ce qui est bon, vertueux ou noble. On aime ça avoir le mérite. On aime ça en retirer le du mérite. À l'inverse, si on fait quelque chose qui n'est pas si bon ou mal, on cherche des excuses pour s'en déresponsabiliser. On peut même avoir tendance à rejeter la faute sur les autres ou sur Dieu. C'est de ta faute, Dieu. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait ça? Faut pas aller bien loin, là. Dans les Écritures, le premier être humain à avoir été créé, Adam, qu'est-ce qu'il a dit un jour pour mettre le blâme sur Dieu? C'est pas de ma faute, c'est ça. Alors, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'âme et j'en ai mangé. La femme que tu, c'est comme s'il disait, tu es responsable. Alors que c'est qui avait mangé? C'est à qui Dieu avait donné l'ordre de dire, tu ne mangeras pas du fruit. Puis si même ta femme t'en offre, ben fais ta job, là. Dis-y non. Dieu m'a dit et nous a dit que non. Mais c'est ça notre penchant. On a cette tendance à se donner le mérite du bien puis rejeter la responsabilité du mal. Le message d'Edward soulignait le fait que tout ce qu'on peut faire de bon et de juste, on le fait uniquement parce que Dieu est à l'œuvre en nous. Si ça va bien, c'est de sa faute. C'est pas de la mienne. S'il existe des pécheurs qui viennent au salut, c'est parce que Dieu les a attirés à lui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. Un autre verset que vous connaissez par cœur, Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et... On n'est pas dans le dessein. Ça ne vient pas de vous. Si vous êtes sauvés, Mettez-vous pas le mérite sur vous, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est vrai qu'il a demandé aux hommes de croire pour être sauvés, mais même cette foi-là fait partie du don de Dieu. Bon, maintenant, où est ma responsabilité? Je vous le disais, qu'on avait affaire à un sujet difficile à me comprendre. La liberté de Dieu puis la liberté de l'homme, c'est compliqué. Mais comment concilier ces deux questions qui semblent contradictoires, mais qui en réalité ne l'est pas? La liberté de l'homme puis la liberté de Dieu, ce n'est pas contradictoire. La même Bible, puis parfois le même verset, enseigne cette vérité-là. Luc 22:22, que c'est facile à retenir, hein? Luc 22:22. Ce verset-là dit ceci. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ, s'en va où? À la mort. Le Fils de l'homme s'en va à la mort selon ce qui est déterminé. Ça, c'était déjà déterminé. Lorsque Christ a quitté le ciel, c'était déterminé qu'il s'en venait ici sur la terre pour mourir. C'était déterminé. Mais, malheur à l'homme par qui il est livré. C'était déterminé. Est-ce que ça veut dire que Judas, c'est qu'il s'en est éclairé? La souveraineté de Dieu n'excuse jamais la responsabilité de l'homme. Ça aussi, c'est une affaire qu'il faut retenir. Dieu est souverain, oui, mais si tu fais des bêtises, attends-toi de payer pour. C'est un principe naturel et normal. Désobéir à Dieu amène des conséquences. Mais merci Seigneur, il nous aime tellement que malgré ces conséquences-là, il peut faire en sorte qu'il va en sortir du bien. Ça, c'est la sorte de Dieu qu'on a. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, on connaît le reste. Alors, même si la chose semble inexplicable pour notre intelligence limitée, on se doit de l'accepter et d'apprendre à vivre avec, plutôt que de se plaindre que ça n'a pas de bon sens. L'apôtre Paul avait déjà vu venir le coup. Tournez dans Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, verset 19. Bien, disons qu'on va commencer à lire à partir du verset 17. Non, 15. Non, 14. Romains 9, 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, et c'est ici, là, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Paul avait vu venir le coup. Si Dieu dirige toutes nos actions, comment peut-il condamner nos manquements ou nos faiblesses, puisque c'est lui qui dirige tout? Mais remarquez bien comment Paul répond à ça au verset 20. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. » Alors, ce qu'un tel homme doit apprendre, c'est que lui, la simple créature, et une créature pécheresse au homme, cet homme-là n'a aucun droit pour critiquer les actions de Dieu. Les créatures n'ont pas le droit de remettre en question les voies de celui qui les a créées pour la simple et bonne raison, comme on a lu tantôt dans Ésaïe 55. Ses pensées ne sont pas nos pensées et nos voies ne sont pas ses voies. Mais mettez pas Dieu au même niveau que vous. Même si c'est manquer de respect que de dire à Dieu, là, oh, c'est mon bon chum, ça. Non, non. Dieu, c'est pas un chum. C'est un sauveur qui mérite tout notre respect, notre révérence et notre crainte. C'est le Dieu qui a donné sa vie pour nous sauver. Et tout ce qu'il va exiger de nous, on devrait dire oui, maître, oui, maître, oui, maître. La parole de Dieu enseigne que les jugements de Dieu vis-à-vis des pécheurs sont parfaitement justes. Si Dieu juge, il a le droit de le faire. Parce que nos péchés méritent son jugement. Maintenant, sa miséricorde. Est-ce qu'on va se payer le luxe de la critiquer aussi? Si sa miséricorde n'est pas exercée vis-à-vis telle ou telle personne, pourquoi tu sauves lui et tu ne sauves pas l'autre dans la même famille? On a tendance... Comment ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? C'est un petit peu de ta faute, là. Lui, oui, puis lui, non. C'est quoi, là? On ne comprend pas. Alors, l'être humain n'a aucun droit de remettre en question ni la justice, ni la miséricorde de Dieu, même si on ne sait pas comment les concilier. Vous ne comprenez pas tout? Vous êtes dans Kamagang. Moi non plus, je ne comprends pas tout. Mais je ne me paierai pas le luxe de critiquer Dieu parce qu'il fait une affaire que moi, je n'aurais pas faite. En conclusion, avec ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il serait censé de dire ou même de penser que puisque c'est Dieu qui attire les pécheurs à lui, ben on n'a pas grand-chose à faire pour influencer nos contemporains pour venir à lui? Ou encore, l'évangélisation, ce n'est pas vraiment efficace, c'est déjà tout écrit d'avance. Fait que du même coup, ce n'est pas vraiment nécessaire qu'on fasse l'évangélisation. Voyez-vous jusqu'où on peut aller dans nos réflexions, là? Concernant l'évangélisation, qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé? Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, vous savez ce que c'est un impératif. C'est un impératif, c'est une nécessité, c'est un commandement, c'est un ordre du Seigneur qui a donné, entre autres, aux apôtres dans Matthieu 28, mais il l'a aussi donné à toute l'Église. Alors, notre responsabilité à nous, c'est d'annoncer l'Évangile puis de jamais oublier que c'est Dieu qui sauve. Moi, je connais un gars qui était proche du Seigneur, qui était un zélé, qui parlait, qui évangélisait. Il dit, à ma connaissance, il n'y a personne à qui j'ai parlé qui est venu à le Seigneur. Ça, c'était à sa connaissance. Puis ça se peut aussi. Mais ce n'est pas ça qui compte. Tu as fait l'ouvrage que le Seigneur il t'a demandé. Puis tu ne sais pas combien de temps ça peut prendre pour qu'une graine semée puisse produire du fruit. Je ne sais pas combien de temps. Je connais quelqu'un qui a déjà prié 25 ans pour le salut d'une âme. Il est mort et la personne pour laquelle il a prié est devenue venue au Seigneur. Il ne l'a pas vu de ses yeux. Alors, il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui sauve. Puis notre évangélisation, c'est juste un instrument que Dieu utilise. Mais la puissance n'est pas dans l'instrument, elle est dans les mains de celui qui l'utilise. Alors, les croyants n'ont aucune excuse pour négliger l'ordre qu'ils ont reçu. Là, je n'oserais pas vous demander, j'espère que là, maintenant, c'est rendu plus clair dans votre esprit, la liberté de l'homme puis la liberté de Dieu. C'est un sujet complexe. Un jour, on a demandé à Charles Spurgeon s'il pouvait réaliser l'accord entre les deux vérités qu'on vient de voir. Il a répondu, « J'essaierai même pas. » J'essaierai même pas parce que j'essaie jamais de réconcilier des amis. C'est ce qu'on devrait comprendre. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, ce n'est pas des ennemis. Ce sont des amis qui travaillent ensemble. Alors que le Seigneur nous aide à apprécier ce qu'il nous a laissé. Il y a des sujets compliqués, durs à me comprendre, mais c'est la parole de Dieu. Dieu est pas mal plus intelligent, pas mal plus puissant, pas mal plus fort que nous. Ça peut arriver qu'ils nous disent des affaires qu'on ne comprenne pas. Il y a bien des affaires que je lis, moi, que je ne comprends pas. Mais, pas grave. Le jour où Dieu va vouloir que je les comprenne, il va me les révéler d'une façon ou d'une autre. Alors que le Seigneur nous dirige à travers nos lectures, à travers nos méditations, puis qu'on puisse en retirer tout ce qu'on a besoin pour m'agrandir puis porter du fruit pour lui. Prions. Oui, notre Dieu et Père, encore une fois, on veut te dire à quel point on est reconnaissant pour ta parole, pour ce qu'elle nous dit, pour les nombreux passages que beaucoup d'hommes avec beaucoup plus d'expérience que nous ont médité. On veut te rendre grâce, Seigneur, parce que tu ne nous as jamais laissés orphelins, mais tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin pour continuer de grandir. Et on veut le faire pour que tu en retires toute l'honneur et toute la gloire. Et on te le demande au nom précieux de ton bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.